On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Serial Causeur. Alors j'ai avec moi Romain qui fait son grand retour dans l'émission.
Eh oui, le retour du fils prodige. Prodigue. Retour du fils prodigue.
Alors on a l'écran, tant mieux, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu. Ouais. Comment ça va, Romain?
Bah, ça va très bien, et toi, Tom?
Bah écoute, ça va, t'as une petite voix, je pense que t'as la fête.
J'ai fait la fête, oui, c'était Halloween aux États-Unis, et on a fait la fête.
Je te l'appelle, hein? Ici aussi, c'était
Halloween. mais ça va, et vous, ça va comment depuis mon départ de Serial Causeur, comment ça se passe?
Eh bah tu vois, on a tout arrêté en vidéo, tu vois, comme
Tout s'est effondré. C'est...
Non, alors pourquoi tu es là? C'est parce que tu vas nous parler un peu des séries que tu regardes en ce moment et un gros programme, puisqu'on va parler de fantastique, de comédie, de revival et aussi
d'horreur.
Séries, voilà. Tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on commence par Walking Dead?
On peut commencer par The Walking Dead, qui a repris il y a donc 2 semaines et demie.
Voilà.
Pour sa saison 8. J'aime bien. Voilà, on passe à la suite. Non, en fait, c'est très différent de la saison 7, qui avait tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup trop autour de Negan. Son arrivée avait marqué les fans par la violence des morts qu'il a entraîné avec sa batte. On peut spoiler parce que ça fait un an, mais bon, il avait tué Glenn et Abraham en un seul épisode. Ça avait choqué beaucoup de monde. Ça avait choqué par la violence, notamment gratuite. Et beaucoup de fans ont déserté la saison ensuite parce que, pour moi, parce que ça tournait en rond, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Comme je disais, ça tournait autour de Negan, mais il se répétait, ça se répétait. Et pas grand intérêt. Pour cette saison 8, ils ont décidé de changer les choses. C'est une saison all-out war. Donc, tu as d'un côté les Alexandrianes et de l'autre côté les Sauveurs qui rentrent en guerre, en fait. Et les deux premiers épisodes, c'est exactement ça, en fait. C'est des batailles d'un camp, dans un autre camp. Et tu as plein de petits groupes qui s'affrontent. Et il n'y a pas vraiment de temps mort, en fait. Je trouve ça bien rythmé. C'est toujours aussi con, hein, c'est pas hyper bien écrit et certaines scènes d'action sont assez ridicules, comme dans le deuxième épisode, il y a une fusillade où les mecs, je sais pas, ils tirent n'importe où. On leur a dit, tiens, prends ce fusil là et tu tires n'importe où. Le mec, il a pris ça au pied de la lettre et il tire n'importe où, ça ressemble à rien, mais on s'ennuie pas vraiment. Donc j'apprécie plutôt ce début de saison.
Ouais, mais est-ce que c'est pas justement que de la fusillade pour de la fusillade, quoi? Est-ce que c'est pas pour combler un manque d'intrigue ou d'idées ou... Parce qu'au tout début de la série, finalement, c'était pas beaucoup de fusillade, quoi. Justement, ils devaient... Enfin, je regarde pas, mais d'après ce que j'ai lu...
Merci.
Beaucoup se moquent du fait qu'au début de la série, on devait faire des provisions de munitions et pas les gâcher. Et là, c'est, voilà, ça tire à tout va et ça tire pas sur les bonnes personnes, quoi.
Bah, ça tire à tout va parce que ils sont obligés, en fait. Ils survivent d'une autre manière. Avant, ils devaient survivre en évitant de se faire bouffer par les zombies, en rationnant la nourriture. Là, ils doivent survivre parce qu'un groupe d'humains dirigé par un psychopathe veulent leur mort. Donc forcément, tu peux pas réfléchir de la même façon. T'es obligé d'y aller à fond pour le mettre à terre, parce que le mec, il est prêt à tout pour te tuer.
Mais est-ce que les grandes heures, enfin, les grandes heures de la série sont pas derrière elle, puisque là, niveau audience, on atteint quand même, on est sous la barre des 10 millions avec, je crois, 8 millions 5 pour le deuxième.
Ce qui est, ouais, niveau audience.
Jamais atteint depuis la saison 2.
Non, oui, c'est ça. Mais c'est comme je disais, les fans ont déserté la série la saison dernière, ils ont du mal à revenir. Et ça se ressent dans les audiences. Après, est-ce que la série a déjà atteint son pic? C'est une bonne question, parce que je sais qu'il y a un nouvel ennemi qui va arriver après Negan, qui est très attendu par les fans du comics. Voyons voir si ça peut relever les choses. Voyons voir si l'épisode Negan va un peu Voyons voir comment va se passer la fin de l'épisode Negan, en fait, pour voir comment les fans vont réagir et voyons voir comment ce nouvel arc qui va arriver va attirer ou pas des fans qui étaient partis ou des nouvelles personnes ou des fans qui sont toujours là, qui en ont un peu marre et qui savent pas trop s'ils vont arrêter. Et le fait que cet arc arrive, ils vont peut-être se dire, bon, bah, je vais peut-être continuer finalement parce qu'il y a du renouveau. Donc, il faudra attendre. Je sais pas si ça atteint un pic. Mais on sait que, enfin, je sais que l'année dernière, ça a atteint un bas de caniveau, quoi. Enfin, pour moi, c'était.
C'est pas trop tard, finalement, parce que la série a quand même déjà 7 ans, quoi. Est-ce qu'elle
en
a encore dans le ventre ou pas?
Bien sûr, bah, tant que le comics continue, la série en aura encore dans le ventre.
Mais est-ce que les gens seront toujours là? Jusqu'où peut aller la.
Ça, c'est la question. Pour l'instant, les gens sont toujours là, même si les audiences sont en baisse. On verra dans 2 ans. Où ça en sera, mais je pense qu'il y aura toujours une effervescence autour de la série, autour du casting qui est très très apprécié. Donc je pense que les gens sont toujours là.
Est-ce que peut-être un départ d'un des membres du casting pourrait sonner le glas de la série?
Ah bah par exemple s'il tue Daryl, si Norman Reedus quitte la série, je pense que ça va faire beaucoup beaucoup de mal parce qu'il y a. Je pense que la fanbase, quasiment toute la fanbase de The Walking Dead, aime Daryl. Ça doit être le personnage préféré de quasiment tous les fans. Donc s'il le bute, c'est fini, je pense, pour la série.
C'est vrai qu'on l'a vu au panel du New York Comic Con, quand Norman Reedus est arrivé sur scène, c'était la
folie. Ah, c'est la folie, hein. C'est complètement la folie, quoi. Les meufs se déshabillent, les mecs se déshabillent, enfin, ça a failli finir en partout général. Non, c'est le mec, il est aimé tout le monde, donc forcément, s'il quitte la série, ça va être compliqué de se relever.
D'ailleurs, il n'y a pas trop de rumeurs par rapport à des départs d'acteurs ou d'actrices.
Bien, figure-toi que si. Ah. Pas Norman Reedus, mais il y a une grosse théorie sur le fait que l'acteur qui joue, enfin le personnage de Carl, pourrait mourir pendant la saison 8.
D'accord.
En gros, l'acteur n'est pas apparu sur le tournage depuis l'épisode de mi-saison. Donc il y a une grosse rumeur sur sa mort. Il y a aussi d'autres éléments qui font que c'est possible que le personnage soit parti en fait de lui-même, plus qu'il n'est mort. Donc on ne sait pas trop pour l'instant, mais bon voilà, c'est le seul pour l'instant dont les rumeurs parlent d'une mort. Mais je pense que d'autres personnages vont mourir cette saison. Et pas forcément les plus gros, mais d'autres plus petits.
L'arc Negan se termine en saison 8 ou on ne sait pas encore?
On ne sait pas encore, mais je pense, vu que les prochains ennemis qui s'appellent les chuchoteurs donc, devraient arriver courant de la saison 8, en deuxième partie de la saison, je pense que l'arc Negan se terminera à la fin de la saison 8 et on passera à autre chose. Après, le truc, c'est que Negan, faut savoir qu'il ne meurt pas. Et qui sera toujours là. Enfin, c'est un personnage à part entière du comics encore toujours aujourd'hui. Je pense que ce sera encore le cas pour The Walking Dead, à part si ils changent les choses comme ils le font pour certains personnages. Mais l'arc Negan, je pense qu'elle va avoir. Je pense que les scénaristes vont mettre un frein à l'arc Negan au cours de la saison 8, dans la deuxième partie, et commencer l'arc des chuchoteurs.
D'accord. Ben, très bien. Donc toi, tu continues à regarder, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, il n'y a rien.
Moi, qui va pour l'instant, je continue à regarder parce que je travaille dessus. Ouais. Et j'avais arrêté de regarder pendant la saison 7 parce que ça m'avait gavé la répétition de chaque épisode et le fait que, oui, ok, on sait que Negan est dangereux, on n'a pas besoin de répéter tous les épisodes. C'est bon, quoi. Enfin, ça m'avait gavé.
D'accord.
Là, j'ai repris et j'aime plutôt bien ce début de saison.
Très bien. Eh bien, on passe à Channel Zero. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Channel Zero? Parce que je pense que personne ne regarde.
Personne ne regarde, non. Channel Zero, c'est une série d'anthologies d'horreur à l'image de American Horror Story, même si c'est complètement différent dans le traitement. En gros.
Mais c'est une saison, une histoire.
C'est ça. C'est une saison, une histoire. Et c'est créé par Nick Antosca.
Le fameux
Nick Antosca. Et en gros, Chaque saison raconte une histoire sur comment j'ai oublié le mot. Super. Donc chaque saison,
Légende urbaine, une
non, oui,
histoire.
c'est en fait adapté d'une des creepypasta.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que c'est des légendes urbaines créées sur Internet au début des années 2000 par des internautes. Et donc, si on connaît pas ce que c'est un creepypasta, on connaît forcément ce que c'est Slenderman. C'est cette grande figure hyper fine avec un costume et un visage tout blanc
Voilà. En gros,
qui
c'est
a
des
effrayé.
histoires, la plupart sont fausses, mais
Oui.
créées spécialement pour faire peur.
C'est ça, exactement. Donc la première saison, c'était sur Candle Cove.
Voilà. Une
C'est
émission,
l'histoire de... Voilà, c'est une émission qui passait dans les années 70, enfin qui passait, qui était seulement visible par les enfants.
Voilà.
Et ce que voyaient les enfants, les parents ne voyaient que,
De
vous
la
savez,
neige.
quand, voilà, de la neige, c'est ça, quand on sape sur une chaîne qui ne marche pas, on voit que de la neige. Voilà. Évidemment, c'est complet.
La neige, c'est fini.
Hein?
Si tu zappes
Oui,
sur
voilà, c'est ça. Là... c'est ça, c'était juste un écran noir, quoi, c'est tout. Bon, évidemment, cette émission n'existait pas du tout, ça reste, comme on disait, une légende urbaine. Et donc la saison 1 parlait de ça avec une sorte de monstre qui attirait les enfants. C'était un monstre fait de dents.
Voilà,
C'était complètement dégueulasse. Bon.
ouais.
Et au contraire de American Horror Story, qui est plutôt gore dans l'ensemble, Channel Zero joue plus sur l'ambiance, sur l'atmosphère assez oppressante, assez angoissante. C'est assez singulier en fait, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment réussi. Et la deuxième saison, donc ça part sur une toute autre histoire, c'est No End House. C'est une maison, une sorte de pop-up maison. Vous savez, c'est comme ces stores qui sont ouverts juste un jour ou juste 2 jours. C'est une sorte de pop-up house qui arrive n'importe où, dans n'importe quelle ville des États-Unis à un moment donné. Tu reçois une invitation en SMS ou je sais plus trop quoi par message pour dire tiens, cette maison sera là à ce moment-là. Et en gros, cette maison matérialise toutes les peurs des personnages. Il y a six pièces à découvrir et chacun n'arrive pas dans la même pièce. Vous pouvez arriver tous ensemble dans la maison, rentrer dans une pièce. Et vous êtes séparés d'un coup parce que vous n'arrivez pas dans la même pièce, parce que vous n'avez pas les mêmes peurs, parce que la pièce n'est pas matérialisée de la même façon pour tout le monde. Et en gros, voilà, ça parle de ça. Et pour moi, ça monte une étape dans l'horreur. La saison 2, elle est complètement réussie. C'est hyper. Ça fait peur. Comme je disais, c'est une ambiance. Hyper angoissante, hyper oppressante, comme je disais, t'es devant la série et t'oses pas trop. Généralement, quand on regarde des séries, on peut aller sur Internet ou faire autre chose à côté.
Ah
Bon,
ouais, c'est
c'est
comme ça.
pas parce qu'on s'ennuie devant la série, mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est un réflexe, je sais pas. Moi, je suis comme ça, peut-être que d'autres sont comme ça. Pour ça, j'ai du mal à faire ça, en fait, parce que je suis pris dedans, je suis complètement impliqué dans l'histoire, impliqué dans l'atmosphère. Et pour moi, c'est pour ça que c'est complètement réussi comme série.
Et donc, ça débarque le 21 novembre, tous les mardis sur Sci-Fi en France.
Absolument.
Si tu ne le
Et
savais
j'ai,
pas, mais tu le sais.
si je le savais, j'ai hâte que ça arrive pour que plus de personnes découvrent cette super série qui mérite d'être beaucoup plus connue.
Et il y a le trailer de la saison 3 qui est sorti il y a quelques jours d'ailleurs.
Oui. Bah, ils avaient fait pareil pour la saison 2, en fait, quand la saison 1 était terminée. Ils avaient annoncé le renouvellement pour 2 saisons supplémentaires, ou 3 saisons supplémentaires, il me semble. Et ils avaient sorti tout de suite le trailer de la saison 2.
Eh bien, on change tout de suite d'ambiance. Je sens que tu perds un peu ta voix en plus.
Ah, tu trouves? Mince.
On dirait que tu es sous drogue. Non, on passe.
Mais quand je ne le suis pas.
C'est vrai, c'est pour ça qu'on t'a viré d'ailleurs. Tu étais sous drogue. H24. On passe aux comédies. Donc, toute autre ambiance. Avec
Ah
Brooklyn
oui.
Nine-Nine, que j'ai moi lâché après 2 saisons. Parce que tout
Ah bah
simplement,
je ne te félicite pas.
quand une comédie ne me fait pas rire, je ne vais pas continuer.
C'est un très bon proverbe.
Non, mais c'est vrai. La mission d'une comédie, c'est de faire rire, tu vois.
Oui.
et de faire tenir. C'est n'importe quelle série, sa mission, c'est de faire tenir
Oui,
sur
mais
une
est-ce
durée, mais
que...
la comédie, c'est de faire rire. Et moi, ça ne
Oui,
fait pas.
je suis d'accord. Si ça fait pleurer à un moment donné, faut arrêter les frais, d'accord. Mais si tu t'accroches au personnage et à l'histoire et aux situations, même si tu ne ris pas forcément, est-ce que tu peux continuer une comédie?
Bah non, parce que enfin ça dépend, parce que autant Brooklyn Nine-Nine, c'est quand même beaucoup de gags, et donc les personnages, enfin je trouve que les personnages sont en dessous des gags.
D'accord. Tu trouves, Andy Samberg, tu le trouves en dessous des gags? Ou même Terry Crews
Je veux
ou
dire,
André
certains
Bogart?
personnages ont moins d'importance que les vannes. Alors, tu vois, par exemple, The Office, je trouve que les personnages sont plus intéressants que ce qui se passe en...
Ah, c'est marrant, je suis pas d'accord sur ça pour Brooklyn Nine-Nine. En fait, je trouve que justement les gags marchent parce que ce sont ces personnages qui les font.
Ouais, je sais
Par
pas,
rapport
mais nous,
à...
je sais pas, on parle-nous de la saison actuelle. Moi, enfin, je trouve que je souris à peine et donc
Ouais.
j'arrête, quoi.
Est-ce que tu trouvais que c'était peut-être répétitif ou dans l'ensemble?
Non, je trouvais ça lourd au final, quoi. Si ça me fait pas rire,
D'accord. Oui.
j'avais l'impression qu'ils en faisaient des tonnes pour essayer de m'arracher un sourire, alors qu'en fait, ils faisaient rien de plus, qu'il n'y a rien de moins. Simplement,
Ouais.
moi, j'avais l'impression qu'ils devaient se forcer pour me faire rire.
D'accord.
C'est ça.
Bah, moi, j'ai toujours apprécié la série. Il y avait peut-être un coup de moins bien en peut-être milieu de saison 2, début de saison 3. Mais là, je trouve qu'ils se sont renouvelés. Au début de la saison 4, Jake et Rosa se retrouvent en prison parce qu'ils se sont fait piéger par une flic corrompue. Et c'est hyper drôle. Ce que je trouve vraiment réussi dans Brooklyn Nine-Nine, pour le coup, c'est les débuts de saison, enfin les premiers épisodes de chaque saison. C'est hyper bien réussi. Ils trouvent toujours des supers idées visuelles déjà, et des supers idées dans l'écriture, que ce soit des gags ou des personnages. Donc pour le coup, ça c'est un des points forts de la série, c'est les season premières à chaque saison.
Prends un coup
Et
de
non, pour le
poing.
coup, pour le coup, non, pour le coup, c'est vraiment réussi. Cette saison, elle est drôle, plus drôle pour l'instant que la saison 3. Et non, comme je t'ai dit, je trouve que les personnages, ouais, pour moi, c'est les personnages qui amènent les gags et c'est les personnages qui font que les gags fonctionnent, comme la relation entre Holt et Jake. Elle est géniale et elle évolue constamment. Et
Ouais.
je trouve ça assez
Non,
bon.
je comprends où tu veux en venir. Je voyais tout le potentiel de tous les personnages, mais j'avais l'impression que ça, justement, que les gags sortaient un peu de nulle part, quoi. Tu vois. C'est bizarre.
Ouais.
On n'a pas du tout la même réception de la série, mais
Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant d'en débattre.
tout à fait.
Ouais, et ce qui est bien aussi, c'est que généralement dans les séries, tu sais, t'as toujours une tension amoureuse entre les deux persos principaux.
Oui.
Mais généralement, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? On sait pas, ça peut mettre 10 saisons, ça peut mettre 2 saisons. Et là, t'as donc les personnages de Jake et de, je ne sais plus son nom.
Ah bah, si tu t'en souviens pas, c'est qu'il y a un problème quand même.
Non, c'est juste que je perds ma mémoire, c'est triste. Non, Jake et Amy Santiago qui se mettent ensemble, donc.
Oui. Bon, c'est du
Et
spoil.
oui, bon, c'est pas grave. Et donc, dans certaines séries, ça casse le truc. Dans cette série-là, au contraire, ça amène de nouvelles situations par rapport aux relations entre chaque personnage. Et encore plus avec l'épisode d'Halloween là, pour cette saison 4, où il y a une nouvelle évolution dans leur relation, sans en dire plus, qui fait, je pense que ça va amener encore d'autres choses assez excitantes pour la suite.
C'est vrai que je trouvais en fait les personnages, à chaque fois je trouve des nouveaux arguments, mais les personnages pris tout seuls sont bons, mais en fait l'ensemble fonctionne pas. C'est bizarre.
Ah
Parce
ouais, bah,
que l'un
je suis
avec
pas
les autres,
d'accord,
ça fonctionne pas. Par exemple, Gina est magnifique, mais
ouais. D'ailleurs, Gina a disparu là en début de saison. Elle n'y est pas.
Terry, je trouve bien. Enfin, tu vois, ils se trouvent chacun bien dans l'ensemble, mais même Charles Boyle, je trouve bien, mais. Je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui manque pour que l'ensemble
Ah,
fonctionne.
ouais. D'accord. Ah, c'est marrant parce que, ouais, on n'a pas du tout la même vision de la série. Ouais. C'est drôle. Parce que moi, je trouve justement que l'ensemble marche parfaitement. C'est une des forces de la série aussi. Donc c'est marrant de voir cette vision complètement différente.
Mais après, voilà, ça fait déjà 5 saisons. Les audiences sont pas non plus. Enfin, ça
Quatre,
baisse.
non? Cinq?
5, c'est la 5. Donc, tu suis même pas en plus.
Ah, c'est la cinq, dis
Ouais.
donc.
Et donc, ouais, les audiences baissent d'année en année. Là, je crois que c'est à moins de 2 millions 8. Je regarde ça. Oula, ouais, moins de 2 millions même. 1
Ouais, bah après
million
les...
700 000.
Ah, t'as raison, c'est la saison 5, dis donc.
Bah,
Donc
oui.
je parlais de la 4 depuis tout à l'heure, mais je voulais dire la 5, évidemment. Donc oui, pour en revenir aux audiences, ouais, le problème, c'est que les comédies de la Fox, elles n'ont jamais vraiment
Oui,
marché.
bah oui. Sinon,
Donc
New Girl aurait été déjà annulée depuis des années.
voilà, c'est ça. Donc au final, on s'en fout, quoi. C'est pas grave, si ça marche pas, tant pis. Ça n'a jamais marché. Le fait est que ça continue, et c'est tant mieux.
Très bonne conclusion. Est-ce que tu ris autant sur Will and Grace qui est revenu cette année?
Oui, absolument. Alors, faut savoir que Will and Grace, que je connaissais de nom depuis très longtemps, j'ai commencé la série cette année,
Bravo.
cet été pour être plus précis. Donc, je me suis enfilé les 8 saisons en 2-3 mois. J'ai beaucoup aimé, enfin, j'ai vraiment adoré.
Bah oui, pourtant
Très différent
tu
de.
fais 8 saisons, oui.
Oui. Après, oui, ça aurait pu être genre pour le travail. On m'oblige à regarder les 8 saisons, quoi. Mais non, c'était pour mon plaisir. Et donc, c'était diffusé quasiment en même temps que Friends, différent de Friends. Donc, tu as toujours ce groupe d'amis, de 4 amis. Donc, tu as Will, Grace, Jack et Karen. Voilà, Will et Grace. Mais c'est hyper différent parce que ça aborde des sujets. Sur la communauté LGBT.
Ah oui, parce que le héros est gay.
Le héros est gay et son meilleur ami Jack est gay aussi. Et donc c'est revenu cette année pour une saison 9, un revival, comme on dit. Voilà.
A priori, c'est ça.
Hein?
16 épisodes.
De quoi?
16.
Non, pas 16 épisodes.
Ah
Non, non,
bon?
non, il y en a beaucoup moins. Attends, je cherche ça.
Moi, j'ai trouvé 16 après.
C'était... Non, il y en a 10.
Faux.
Non, c'est vrai, il y en a 10. Et ça a été renouvelé pour une saison 10. Donc pour une saison 2, nouvelle génération, si tu
Moi, c'est bizarre
veux.
parce que ils ont commandé 4 épisodes en plus le 3 août pour un total de 16. Ah. Et c'est déjà renouvelé pour une
Ah.
saison 10.
Oui, c'est renouvelé pour une saison 10. Ah, c'est
Ouais.
marrant. 16, t'es sûr? Bon, oui, bref. Ah oui, 16, tu as tout à fait raison, dis donc.
Hey, t'as vu?
Ouais, bien joué.
J'avais viré.
Bien joué. Je me suis fait avoir par App Guides, qui est
Bah
censé être ma bible d'épisode, mais bon, c'est. Je vais leur envoyer un message.
commander.
Voilà.
Donc, Will and Grace.
Oui, Will and Grace, donc, oui. Alors, on aurait pu avoir peur de ce retour-là. Mais en fait, non, c'est aussi drôle, c'est même plus drôle que les dernières saisons de Will and Grace. C'est toujours hyper mordant, hyper cynique, mais tellement juste en fait dans sa façon de parler des homosexuels et de toute la communauté. Les personnages sont les mêmes en fait, ils sont restés les mêmes. Les acteurs, c'est comme si juste quelques mois avaient passé entre la saison précédente et la nouvelle saison. Non, c'est une totale réussite. On peut avoir peur des revivals, comme on l'a été pour Heroes, qui a été catastrophique, ou pour Fuller House sur Netflix, qui est nul, qui est resté dans les années 90, quoi. Enfin, mais qui sont restés dans une boucle temporelle des années 90. Les scénaristes, ils n'ont jamais évolué. Bref, pour Will and Grace, c'est complètement différent. C'est à la fois pareil de ce qu'on a vu, même si c'est plus contemporain que La fête à la maison, mais ça a aussi évolué avec son temps.
Ouais, c'est
Donc
ça.
c'est une réussite totale. L'humour est toujours aussi réussi. On rigole. C'est comme je dis, c'est hyper mordant. Pour moi, c'est une voire la grosse réussite de cette rentrée série.
D'après ce que j'ai vu, donc le dernier épisode de 2006 se terminait avec un flash-forward sur le futur de Will and Grace. A priori, sur ce revival, ils ont totalement occulté cette
Oui,
partie.
le dernier épisode qui a été décevant pour de nombreux fans. En fait, c'est voilà, c'est un flash forward où on les voit vieillir, où on voit leurs enfants grandir et se rencontrer. Faut savoir que dans ce flash forward, Will and Grace ne se parlent plus du tout depuis des années. Ils ne sont plus amis. Ils se retrouvent juste parce que leurs enfants sont allés dans la même fac. Ils se retrouvent dans la chambre l'un en face de l'autre. Et ce revival occulte complètement ça. En fait, ce flash forward, c'est ils en ont fait un rêve de Karen. Et on le voit dans l'une des premières scènes. En fait, elle est sur le canapé, elle se réveille d'un coup. Elle fait ah, oh, j'ai fait ce rêve hyper bizarre où c'était dans le futur, vous parliez plus, bla 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 bla. Genre toi, t'étais enceinte, t'avais un enfant, bla bla bla. Donc ils ont complètement enlevé ça. Et ils sont repartis comme si de rien n'était, comme si ce final n'avait jamais existé.
Et donc tu dis que ça a évolué avec son temps. Est-ce que donc le fait d'écrire un personnage homosexuel, est-ce que ça a changé ou enfin est-ce que le personnage a changé ou est-ce qu'il est justement encore plus pertinent maintenant?
Comme je disais, les personnages n'ont pas du tout changé. En fait, on retrouve les mêmes que ceux qu'on avait quittés. Mais c'est oui, ils sont quand même hyper pertinents parce que si comment parler de ça sans se tromper ou quoi. Enfin, je veux dire, il y a toujours des problèmes avec l'homophobie aujourd'hui, même si ça a évolué dans le bon sens pour les droits des homosexuels et voilà en général. Il y a toujours un gros problème d'homophobie, il y a toujours un gros problème même de représentation, tu vois, dans les séries ou au cinéma ou quoi. Donc il y a toujours des questions à évoquer, des réponses à apporter. Et Will and Grace, là, cette saison 9, le fait super bien. Et justement, dans l'un des derniers épisodes, le fils de Jack, donc c'est un fils qu'il a eu parce qu'il avait donné son sperme à une banque de sperme quelques années.
Ouais. Auparavant.
Auparavant, voilà, auparavant. Le fils de Jack revient. Il l'avait déjà vu dans les saisons précédentes, hein. Mais là, il revient. C'est un adulte. Il a même un enfant. Et ils envoient cet enfant-là, donc le petit-fils de Jack, dans un camp pour guérir l'homosexualité, si
Ah
tu
ouais.
veux.
C'est pas très drôle, hein.
Bah non, c'est pas très drôle. Et sachant que le fils de Jack sait que son père est homosexuel et il n'est pas d'accord avec le fait que son propre fils soit homosexuel, et notamment parce que il est marié avec une meuf qui vient du Texas. Donc c'est un peu voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les deux comment on appelle ça? Les deux gérants, si tu veux, de ce camp-là, ceux qui animent, les animateurs, c'est Andrew Rannells et Jane Lynch,
Ah, les
sachant
fameux.
que ces deux acteurs, donc l'actrice et l'acteur, sont homosexuels dans la vraie vie. Donc c'est assez drôle de voir qu'ils sont dans la série deux animateurs d'un camp pour guérir l'homosexualité, tandis que les acteurs sont homosexuels eux en vrai. Donc tu vois, il y a cette petite touche-là assez ironique qui fonctionne parfaitement. Et c'est hyper intelligent. Et c'est ce qui fait la force de Will and Grace, c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est hyper ironique, mais hyper intelligent, et voilà, enfin, c'est vraiment une excellente saison 9.
Et côté audience, bon, bah, ça avait commencé devant 10 millions, là c'est à moins de 7 millions. On peut dire quand même que c'est un succès pour la chaîne.
Oui, c'est un succès, oui, clairement. Bah, très honnêtement, à part Big Bang Theory qui cartonne, les comédies, ça marche pas tellement à la télé américaine. Donc 7 millions, c'est très très bien. Ouais. On peut dire que c'est un succès, ouais, complètement.
Ben, merci Romain.
Bah, de rien.
Est-ce que tu restes avec nous pour l'émission suivante qui est le planning des séries à venir. Tu as le droit de dire non.
Je peux rester avec vous, oui, avec grand plaisir.
Avec grand plaisir,
Je ne sais pas exactement ce qui arrive, mais je pense que tu te feras un plaisir de me dire les séries qui viennent dans les prochaines semaines.
tout à fait. Allez, à
Voilà.
bientôt.
Oui, à bientôt.